C'est l'heure de Radio Foot International avec la compagnie aérienne Corsair. Corsair vous propose jusqu'à 4 vols par semaine vers Maurice et Paris.
Radio Foot International, Annie Gasnier.
Bonjour et merci de nous rejoindre à l'écoute de Radio Foot International sur RFI, comme chaque jour, et pour évoquer aujourd'hui une réforme ou une révolution, un projet ou un compte à rebours. Le plan de l'UEFA pour réorganiser ses compétitions européennes provoque une grande inquiétude parmi les dirigeants européens de clubs, notamment français, qui hier se sont déclarés opposés au projet présenté il y a 8 jours à Nyon par l'UEFA. Nous poserons des questions au président du syndicat des clubs de Ligue 1, Bernard Caiazzo, qui était hier à cette réunion d'urgence. La Lazio, vainqueur de la Coppa Italia hier dans leur stade, les Romains ont battu les favoris de la finale, les joueurs de l'Atalanta de Bergame. Un trophée passeport pour la Ligue Europa, de quoi sauver la saison du club de Rome, très loin du podium. Saison finie pour Neymar au Paris Saint-Germain. Le Brésilien suspendu ne portera pas les couleurs du PSG pour les 2 dernières journées contre Dijon et Reims. Sera-t-il là encore l'an prochain? Alors que les rumeurs, évidemment, enflent en cette période pré-mercato et notamment du côté de l'Espagne. Ces sanctions contre Neymar brouille-t-elle un peu ou beaucoup le talent de l'attaquant brésilien? Eh bien, nous en parlerons notamment avec Habib Bey. Bonjour Habib.
Bonjour Annie, bonjour à tous.
Avec évidemment aussi Dominique Sévrac du Parisien.
Bonjour, bonjour Dominique. Annie, bonjour à tous.
Vous nous parlerez de Neymar, vous nous direz tout?
Tout.
Tout. Étienne Moati, bonjour.
Bonjour.
Bon, il ne sait rien.
Non, mais il sait tout sur la réforme des Coupes européennes.
Et j'ai parlé à Neymar hier, encore ce matin.
Ah oui?
Je serais étonné.
Oui. En plus, oh là là, j'espère que vous nous gardez la primeur de tout cela. Radio Foot, c'est parti.
Le scénario est incroyable, Mauricio Pochettino n'en croit pas ses yeux. 4 buts, 11 minutes.
Ce match est dingue jusqu'au bout.
This is incredible. Absolutely incredible.
C'est bien. Quel début de match il fait, lui.
Mais ils sont en train de les faire tourner.
Quel début de match il fait.
Et il gol. Della formazione bianconera è il gol che tramortisce l'Atletico di Madrid.
E che reversement situation City e peut-être en train de réaliser l'inimaginable.
Un résumé sonore de la Ligue des Champions de cette saison, la compétition phare du football européen. Cette compétition est-elle menacée et surtout menace-t-elle le football français et plus généralement les championnats nationaux ou la majorité des clubs européens? En tout cas, eh bien, il semblerait, à tel point que les dirigeants des ligues se réunissent un peu partout pour rendre leur verdict quant au projet ou au programme de réforme annoncé le 8 mai dernier par l'UEFA. En Suisse, du côté de Nyon, alors hier à Paris, les représentants des 35 clubs hexagonaux de Ligue 1 et de Ligue 2 s'étaient réunis. Il y avait aussi le président de la Fédération française de football, Noël Le Graët. Et il y avait donc Bernard Caiazzo, qui est l'un des deux présidents de l'équipe de Saint-Etienne, mais aussi, ou du club de Saint-Etienne, mais aussi du syndicat des clubs de Ligue 1. Bonjour, monsieur le président.
Bonjour.
Merci d'être dans Radio Foot International. Hier, il y a eu cette réunion d'une assemblée générale dite extraordinaire avec ce thème qu'est la réforme des compétitions européennes, non seulement de la Ligue des Champions, mais aussi de la Ligue Europa. Est-ce que pour vous, si vous dites urgence, c'est que c'est déjà très tard?
Très tard, je ne sais pas, mais aujourd'hui, il y a une mobilisation qu'on n'a jamais vue en Europe. Il y avait à Madrid, la semaine dernière, 250 clubs européens, dont une vingtaine de clubs français. Jamais de l'histoire du football français, nous n'avions eu 20 clubs qui se déplacent pour une réunion de travail sur un sujet, en l'occurrence, c'était le sujet de ce projet de réforme, de toute l'histoire du football français. J'ai jamais vu de réunion avec 250 clubs européens au même endroit, non plus. Donc, ça veut dire qu'il y a un mouvement de fond extrêmement fort qui est en train de se dessiner de type, entre guillemets, gilets jaunes du football, qui refuse absolument un système qui nous amènerait à tout argent avec la mainmise de quelques grands clubs sur l'ensemble de notre football européen. Et c'est pas seulement en France. Vous voyez, vous parliez de la Lazio tout à l'heure qui a gagné la Coupe d'Espagne. Et il y avait la Coupe d'Italie, pardon, Polito, le président de la Lazio qui était à Madrid. Il participait à la même intervention que lui dans la conférence. Et en fait, il a été fortement applaudi parce qu'il est absolument, mais je dirais, à 1000% contre ce projet de réforme, avec une grande majorité des clubs italiens, quand même, une majorité de 80%. C'est pareil, les Allemands viennent se déclarer à 100% à l'unanimité contre. Les Espagnols, c'est pareil, les Anglais, c'est pareil. Donc les Français, nous ne sommes pas, je dirais, différents. Et l'avantage que nous avons, et le point peut-être de différence, c'est que nous, le président de la Fédération, Noël Le Graët, a pris l'étendard, je dirais, de ce combat contre ce projet de réforme, mais de façon intelligente, non conflictuelle, raffinée, en faisant une proposition alternative qui a, je dirais, reçu l'adhésion de l'ensemble de nos clubs. Alors on verra si la France sera, je dirais, à l'origine d'une proposition alternative qui conviendrait beaucoup mieux, parce que dans ce projet de réforme, des spécialistes qui sont avec vous le savent mieux que moi, toute la difficulté, c'est d'aller vers une sorte de championnat d'Europe type NBA, ligue fermée, où ce qui nous gêne énormément, c'est que le champion de France ou les meilleures équipes françaises de l'année pourraient, la saison suivante, ne pas être qualifiées pour la Champions League, et c'est ça qui nous embête, parce qu'on n'aurait plus le système de la performance. Il faut dire, pour parler de la nature de cette réforme, pour les auditeurs, c'est que...
Oui, c'est ça, c'est-à-dire que les championnats nationaux sont menacés dans leur essence et au quotidien.
Oui, puisque le champion, par exemple, si la réforme avait lieu pour l'année prochaine, bon, c'est le deuxième, parce que Paris Saint-Germain, ce serait premier, mais le deuxième, Lille, n'irait pas en Champions League. Voilà, donc on ne peut pas avoir un système dans lequel on fait une compétition et ensuite la récompense à la fin, eh bien, elle est donnée à l'ancienneté, à des gens qui ont fait les compétitions les années précédentes. C'est un système où, en fait, le modèle du football doit rester basé sur la performance sportive. Et sinon, ça veut dire qu'on enlève l'espérance, on enlève le champ des possibles à des clubs qui arriveraient, des nouveaux arrivants, ou des clubs qui pourraient, je dirais, être performants dans leur championnat et qui ne pourraient ainsi ne feraient pas les compétitions, la compétition européenne suprême.
Bernard Cayazou, on dit cela, mais en même temps, même si on fait partie des championnats européens où on a encore accès à cette Ligue des Champions, mais on a bien vu que ces derniers temps, des équipes, je dirais plus de football vers l'est de l'Europe, mais des clubs comme le Steaua Bucarest qui l'a déjà gagné, ou l'Étoile Rouge, ou encore Anderlecht qu'on voyait briller, Ajax n'ayant été peut-être qu'une exception cette année, ont été écartés d'une certaine façon à partir d'un certain moment. Elle est un peu fermée déjà, cette ligue, de fait.
Non, mais ils ont été écartés parce qu'effectivement, ça, c'est l'évolution financière du football. Mais à un moment donné, que David, je dirais, contre Goliath, ait beaucoup de moins de chances de gagner. Oui, mais au moins, il a une chance. Par contre, ne pas mener le combat, empêcher David de mener le combat contre Goliath, ça veut dire que ça va se jouer entre les différents Goliaths. Et dans ces cas-là, on enlève l'espérance. Le sport, le football en particulier, les supporters, c'est ce qu'ils souhaitent. Le moindre supporter du club, même qui n'est pas un club parmi les plus gros, il a l'ambition, le rêve, on va dire, vous tuez le rêve de voir son club arriver à jouer les compétitions européennes suprêmes. Si on enlève le système et que c'est en fait une compétition qui se joue toujours entre 8-10 clubs, parce qu'en Europe, s'il n'y a que, on va dire, 8-10 clubs dans les 5 grands championnats qui sont favorables sur une centaine de clubs à ce projet de réforme, bien évidemment, c'est vrai qu'on va enlever tout suspense, et c'est un système qui va se jouer entre quelques clubs, et les championnats domestiques vont se trouver dévalorisés économiquement, dévalorisés au niveau de leurs droits aussi télé, et surtout, le pire, c'est que les joueurs vont être amenés à jouer 80 matchs par an. Et au niveau des sélections nationales en particulier, là, il y a un risque majeur. Et on pense aussi aux sélections, je dirais, de tous les pays qui se retrouveraient dans un handicap, avec des joueurs qui seraient complètement rincés quand ils vont rejoindre la sélection, vu le nombre de matchs qui seront demandés au plus haut niveau.
Ouais. Hier, 32 clubs ont été d'accord pour s'opposer au projet. Il y a eu 3 abstentions, celle du Paris Saint-Germain, de l'Olympique Lyonnais et de l'Olympique de Marseille. Ça vous étonne ou ça vous étonne pas ?
Non, mais l'abstention, on peut imaginer que dans des rapports avec l'UEFA, on peut avoir. C'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est que, comme l'a dit le président Le Graët, c'est tout de suite, dès le début de l'Assemblée, l'ensemble du football français, moi, le premier, fédération, les ligues, les clubs, et les clubs sont solidaires entre eux, nous sommes fondamentalement opposés à ce projet de réforme. Il a rencontré le président de l'UEFA, Alexander Zeferin. Il lui a expliqué, Zeferin lui a demandé une proposition alternative. Noël Le Graët a pris l'initiative de cette proposition. C'est un acte à la fois courageux, intelligent et qui démontre que Noël Le Graët a le vrai souci du football et de le servir, contrairement à d'autres qui s'en servent. Et la réalité, c'est que cette proposition était très bien ficelée par la fédération et les clubs, une équipe va commencer à y travailler dès la semaine prochaine, et à partir de là, essayer de l'améliorer. Également, bien évidemment, parce que c'est un premier jet d'une proposition, faire qu'avec nos voisins, différents voisins européens, on puisse travailler aussi et faire qu'on puisse, d'ici le 6 juin, où l'on a la prochaine assemblée générale des clubs de football professionnel, pouvoir avancer. Mais de façon, là, on est dans le dialogue, la concertation, c'est ça qui est bien. Après, on verra bien comment les choses se passeront et comment. Mais il faut essayer de donner la chance à ce que tout le monde, tous ceux qui aiment le football, se rassemblent pour construire quelque chose d'intelligent, mais qui soit quelque chose dans lequel la performance sportive reste récompensée, comme c'est le cas actuellement.
Pensez-vous que le dialogue soit encore possible ou finalement vous croyez que Zeferin, le président de l'UEFA, va choisir le passage en force et donner raison au projet existant ?
J'imagine pas sincèrement que le président de l'UEFA puisse faire imposer un projet de réforme qui soit rejeté par 90% des clubs européens. Je pense que sincèrement, je peux pas imaginer que le système fonctionne de cette façon-là, parce que ça voudrait dire que on a abandonné toute démarche de démocratie. 90%, c'est pas 50 ou 55, hein. C'est une écrasante majorité. Dans ces cas-là, je pense que on aurait une démarche qui on serait dans une situation où tout le monde serait perdant. Donc j'imagine pas que on aille dans cette direction. Je suis sûr que tout le monde va raison garder et trouver les bonnes réponses et les bonnes solutions pour que on respecte le football, parce qu'en fait c'est un slogan de l'UEFA, c'est respecter, respect, on respecte le football, on respecte les supporters, et que ces supporters, s'il n'y a pas que les supporters de 7 ou 8 gros clubs européens, il y a aussi dans chaque ville, même les plus petits clubs, les supporters aiment leur club et souhaitent que leur club ait accès aux rêves, la possibilité de jouer des compétitions au plus haut niveau. Ça veut dire que sinon le football va devenir ultra-capitalistique, le football ce sera le tout-argent, et ça veut dire que ce sera une course à l'armement, et cette course à l'armement, comme l'a dit un des dirigeants du football, ça fera quoi ? C'est pas ça qui va fabriquer plus de Messi, non. La différence, c'est que les grands joueurs, au lieu d'avoir 6 Ferrari, ils en auront 8 ou 9, il y aura plus d'argent pour les plus gros clubs. Sincèrement, je vois pas la finalité. Si ce sport que nous aimons, entre lesquels nous avons une grande passion, devient simplement un sport où c'est le tout argent, même si l'argent est important, c'est une des composantes, mais ça doit rester le jeu, l'enjeu, et tous ceux qui, comme moi, depuis l'âge de 6 ans, sont des passionnés de football, mais on est là aussi 90%, une majorité de 90%. Et s'il y a 10% de gens qui ont envie que le football devienne un système essentiellement, je dis bien, orienté vers l'argent, ben ça veut dire qu'à terme, ce sport, malheureusement,
est menacé.
Et c'est ce que nous ne voulons pas. Parce que moi, je ne me suis pas battu toute ma vie pour le football. J'ai eu la chance d'être dans la génération Platini, qui a été une génération du développement du football français, pour voir le football ensuite se retrouver aux mains des marchands. Purement aux mains des marchands. Je pense que ce sera la fin du football tel qu'on l'aime.
Étienne Moati, vous avez une question ?
Oui, une question et en même temps une observation, parce que les grands clubs manœuvrent assez habilement, parce qu'ils présentent un projet extrémiste, et puis sans aucun doute, au bout du compte, on aboutira à quelque chose d'un tout petit peu plus modéré, mais ils auront quand même avancé leur pion, parce que aujourd'hui, finalement, la Ligue des Champions, elle fonctionne très bien. Il y a déjà 4 clubs anglais, 4 clubs italiens, 4 clubs allemands et 4 clubs espagnols tous les ans directement qualifiés. On voit qu'ils vont au bout quasiment tout le temps tous. Donc on voit pas ce qu'ils ont besoin de plus, mais en mettant un gros coup de pression à tout le monde, et ben finalement ils auront sûrement un système qui à l'avenir sera encore plus avantageux pour les grands clubs et encore moins avantageux pour les petits.
Et surtout ce qu'ils veulent arriver à faire, c'est en fait remplacer. Ils espèrent remplacer l'intérêt pour des compétitions nationales, pour un intérêt pour une sorte de championnat européen des clubs.
Mais qui existe déjà pourtant.
Le débat. Non, mais il y a une Coupe d'Europe, il n'y a pas un championnat où il y a 20 clubs européens qui, comme dans notre Ligue 1, disputent match aller-retour. On sent poindre à terme un abandon, si vous voulez, du championnat, des championnats domestiques pour aller vers une sorte de championnat. Alors là, même si c'est 4 groupes de 8, mais à terme, on sent aller dans une sorte de direction extrêmement négative, parce que ça voudrait dire que c'est la fin des champions, ce serait la fin des championnats domestiques tels qu'on les connaît, et avec bien sûr un gros danger pour. C'est pour ça que les 5 grands pays du football sont farouchement contre ce projet.
Dominique Sévrac.
Ce projet, pour moi, il ne marcherait pas, parce que les gens, les supporters, les amoureux de football ne veulent pas ça. On a l'impression, souvent en politique, que ce sont des technocrates qui nous dirigent, qui comprennent pas le ressenti du peuple. Et là, j'ai l'impression que les gens du football ne comprennent pas ce qu'aiment les supporters. C'est antinomique avec la passion chaque week-end pour un feuilleton qui est la Ligue 1, la Bundesliga, le Calcio. Donc, ce sont des gens qui n'ont pas compris qui les aime, qui les va les soutenir, qui va payer des places, qui est un ultra, qui est une famille qui suit le football. Et puis, j'ai envie de dire à Bernard aussi que ce Frankenstein, c'est un peu vous tous du football qui l'avez aussi enfanté. C'est-à-dire que c'est vous qui avez allé sur la pente de l'argent depuis des années dans plusieurs domaines, et c'est vous, alors pas forcément le président de Saint-Étienne en lui-même tel quel, mais c'est l'idéologie du football depuis des années qui a enfanté ce Frankenstein-là. Vous avez toujours voulu plus d'argent, une bulle spéculative incroyable, une course au salaire incroyable. Les salaires de Messi, de Neymar, d'Mbappé, de Cristiano Ronaldo dépassent l'entendement. Il faut pas vous étonner qu'un jour, ces gens-là.
Tu nous donnes beaucoup d'importance de ce point de vue-là. Aujourd'hui, malheureusement, tu te rends compte que le football, il va dans une direction capitalistique qui est très négative. Mais poussé par quoi? C'est une course à l'armement. Les budgets des plus gros clubs, à une époque, c'était 200 millions. Puis c'est monté à 300, 400, 500. Aujourd'hui, on parle d'1 milliard, Real Madrid, Barcelone. C'est ça le sujet. C'est qu'à un moment donné, il aurait fallu une harmonisation européenne. Et à quoi ça sert? À quoi ça sert cette course à l'armement? Comme je dis, tu ne vas pas fabriquer 3 Messi au centre de formation du Barça parce que tu vas avoir 200 millions d'euros de plus. Non, le talent ne se fabrique pas. Et c'est là où malheureusement, nous sommes, nous, je dirais, poussière par rapport à ces grands clubs européens qui, entre eux, on voit bien, regardez l'histoire du fair play financier du Paris Saint-Germain. Qui a derrière mis tous les bâtons dans les roues au Paris Saint-Germain pour empêcher justement un nouvel arrivant? C'est les 4 ou 5 gros clubs qui dirigent l'Europe, la Juve, le Bayern, les Real, le Barça, on voit très bien. Donc en fait, moi ce que je dis, si la volonté, c'est la volonté d'une grande majorité des clubs d'aller vers cette direction de l'argent, très bien, mais ce n'est pas le cas. Il y a 90% des clubs européens qui sont contre. Donc, malheureusement, Dominique, tu as 10% de gens qui veulent transformer nos supporters en spectateurs. Parce que qu'est-ce qui va se passer? Tu vas transformer le supporter qui, lui, ultra, le supporter qui est, lui, par rapport à son club, qui a les émotions et qui vit pour son club, et tu veux faire venir des spectateurs, c'est-à-dire des gens qui voient, effectivement, que des matchs du genre Juventus-Bayern. Oui, mais malheureusement, c'est même pas l'intérêt. Moi, je dis, même le supporter de la Juve ou le supporter du Bayern, c'est même pas, quand on y réfléchit bien, parce qu'il veut lui aussi jouer les équipes italiennes. Juve-Torino, c'est un derby qui a plus d'importance que Juve-Bayern dans l'esprit de beaucoup de supporters. Mais malheureusement, c'est cette course. Je l'ai dit l'autre fois à Agnelli, le président de la Juve, je lui ai dit, je ne te comprends pas, toute ta famille s'est battue pendant des dizaines d'années pour le développement de la Juve. Là, je ne comprends pas, je comprends pas cette démarche, qui est une démarche qui va à l'encontre même de la philosophie que vous avez pu avoir depuis des années.
Habib Bey, hein, vous qui avez suivi cette Coupe d'Europe, cette dernière édition, on va dire de très près, et puis vous, l'ancien joueur qui avez connu les supporters de Marseille, est-ce que vous avez l'impression qu'en plus le spectacle est menacé?
Ben, le spectacle est menacé, oui, parce que en quelque sorte, qu'est-ce qui fait la rareté d'un grand match? C'est que justement, on le voit une fois dans l'année, un Juve-Bayern. pourquoi vous avez envie de le regarder si vous le voyez 5-6 fois dans l'année? Il n'aura plus du tout de saveur, ça ne sera pas du tout la même chose. Et puis moi, c'est surtout en fait les conséquences de tout ça. Quand on isole cette conséquence de dire que, par exemple, en imaginons aujourd'hui en France, on n'a que 2 qualifiés pour la Ligue des Champions. Si vous enlevez justement cette opportunité, qui va se battre? C'est-à-dire que vous n'allez pas découvrir des PP, des joueurs comme ça, parce que ces joueurs-là sont motivés par cet aspect de se qualifier pour la Ligue des Champions. Lorsque vous avez Saint-Etienne aujourd'hui, avec Montpellier, qui joue cette place éventuellement en Ligue des Champions ou pour l'Europa League, s'il y a une saveur jusqu'à la 38e journée, c'est parce qu'ils sont motivés pour cette carotte qu'on leur met en fin d'année. Et c'est pour ça qu'on voit un championnat où il y a des matchs intéressants. Si demain vous dites, bah, il y a qu'un qualifié, tout le monde sait que c'est le PSG. Donc vous allez vous battre pour quoi, en fait? Vous allez vous battre pour dire, bon, bah, on va finir à une place d'honneur. Et puis bon, si on est 3, c'est pas entre 3 et 5, c'est pas grave, parce que de toute façon, il y a rien, il y a aucune récompense. Donc vous allez pas voir de duel, en fin de compte, toute l'année dans un championnat qui ramène des gens tous les week-ends au stade. C'est ça, en fait. C'est que ces matchs-là, Angers-Lille, Angers-Saint-Etienne, Saint-Etienne-Lyon, les gens viennent au stade pour ces matchs-là parce que ils ont entendu leur grand-père, ils ont entendu leur oncle, leur tante, leur petit frère qui parle de ce match-là. Lorsque vous allez avoir que des Juve Bayern ou des par exemple Real Madrid, oui, c'est bien, on a tous envie de voir ces matchs-là et on a vu cette année, c'était assez grandiose. Mais l'Ajax, c'est quoi aujourd'hui? C'est cette histoire qui est belle de la Ligue des Champions. On me dit par exemple que l'année prochaine, Monaco, en étant 17e, pourrait jouer la Ligue des Champions si cette réforme était appliquée. C'est ce que j'ai cru comprendre.
C'est ça, oui.
Oui, oui, tout à fait.
À un moment donné, il faut être rationnel.
Monaco... Tu pourrais même aller en deuxième division. Habib, tu pourrais même te retrouver en deuxième division.
Et d'ici...
Si tu restes maintenu dans le groupe, dans le groupe de Ligue des Champions, tu continues l'année suivante la Ligue des Champions.
Mais culturellement, je ne vois pas comment l'Angleterre ou l'Italie, qui sont deux pays de football absolu, où le championnat a une prégnance importante, les Anglais préfèrent, on a répété toute la saison, en tout cas les consultants ont répété toute la saison, que Liverpool préférait gagner le championnat que la Ligue des Champions, parce qu'ils ne l'ont pas gagné depuis très longtemps, le championnat, 30 ans. Bon, finalement, ils ont peut-être gagné la Ligue des Champions, ce qui est pas mal, hein, au passage. Mais les Anglais qui vivent leur boxing day, tout ça, je vois pas comment on peut leur tuer leur produit phare qui rapporte des milliards. Ça me paraît impossible.
Oui, mais l'objectif, juste... Justement, Dominique, tu as raison, et j'apprécie beaucoup le commentaire d'Ami, parce qu'il y a aussi le côté joueur. Les joueurs, quand tu vas leur dire, les joueurs, ils vont partir sur 80 matchs, alors tu vas me dire, tu vas pas leur faire 80 matchs, tu vas leur en faire, mais tu en feras faire quand même beaucoup plus qu'aujourd'hui. Là, pour les joueurs, tu peux te poser des questions sur l'état physique dans lequel ils seront, etc. Mais pour revenir à ce que tu dis, les Anglais sont fondamentalement contre cette réforme. Pourquoi? Parce qu'un des objectifs de cette réforme, c'est d'aller chercher de l'argent. Les Anglais ayant beaucoup plus d'argent en droit télé, d'aller piquer de l'argent sur le football anglais. En ayant un championnat d'Europe où tu auras, par exemple, 4 ou 5 clubs anglais. Donc, dans cette idée, en disant cette attractivité qu'il peut y avoir. Mais les Anglais ne sont pas dupes parce qu'ils ont refusé ce projet complètement, parce qu'ils sont conscients de cette volonté d'aller leur piquer de l'argent pour le remonter au niveau européen. Donc, bien évidemment, je partage cette analyse de dire... tu auras toujours dans des championnats des matchs qui n'iront pas. Sauf si tu les appauvris à tel point financièrement que tu es obligé d'aller chercher des revenus complémentaires sur la scène européenne dans des championnats où tu finiras par une sorte de championnat d'Europe avec 20 clubs qui joueront chaque saison et qui inévitablement privilégieront ce championnat par rapport à leur propre championnat parce que les revenus financiers seront bien plus importants. C'est ça qui apparaît derrière ce projet. Ouais. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il est rejeté par facilement 90% des clubs européens.
Merci beaucoup Bernard Cayasso d'avoir été avec nous pour évoquer ce sujet. Peut-être une petite question sur
Saint-Etienne. C'est brillant Bernard, hein, vraiment brillant.
Sur Saint-Etienne.
Écoute, je t'avoue que je travaille sur le sujet depuis un certain temps. Moi, il y a un truc. J'ai mal à mon football, sincèrement, j'ai mal à mon football depuis que j'ai vu ce projet sortir, parce que c'est à l'encontre de tout ce que j'ai aimé toute une vie. Et ça me fait terriblement mal, parce que je me dis, mais putain, les marchands sont dans le temple, ils vont te tuer le football avec leur pognon, où ils ne pensent essentiellement à cette notion-là. C'est pas possible. Et c'est pour ça qu'on va se battre jusqu'au bout. Pour moi, c'est une question de survie de nos clubs.
Bernard Cayasso, une dernière petite question. Saint-Etienne, européen ou pas l'année prochaine?
Écoutez, je l'espère vivement. Cette année, les autres
deux
années, la cinquième place l'est. Bon, il reste deux journées. Bon, je fais confiance à Jean-Louis et puis à Ghislain Printemps et puis ses équipes. Je suis sûr que, comme m'a dit Jean-Louis cette semaine, il m'a dit... Bon, au boule, on peut louper la première, mais je loupe jamais la deuxième. Donc on va bien voir. Hein. On croise les doigts.
Merci beaucoup Bernard Caillasso d'avoir été en direct avec nous dans Radio Foot International. Bonsoir. À très bientôt.
Merci.
Il y aura encore une réunion bientôt, donc ça sera le début juin, nous disait Bernard Caillasso. Ça sera à Malte, hein, Étienne Moati.
Oui, une réunion avec tous les clubs, encore une fois. Il va y avoir d'autres réunions. Une décision, normalement, doit être prise à la fin de l'année. Mais les grands clubs, faites-moi confiance, ils ont déjà gagné parce que ils agitent un chiffon très, très rouge. Tout le monde a très, très peur. Et donc, quand ensuite, ils viennent avec une solution intermédiaire, finalement, tout le monde est content, on se dit on est sauvé. Et puis, eux, surtout, ce qui vaut au bout du compte, c'est une meilleure répartition encore pour eux du gâteau financier du football. Et faites-moi confiance qu'ils vont l'obtenir. Ils auront gagné la partie.
Et c'est tout ? Il n'y aura que ça ? Ou il y aura un changement de format de la Ligue des Champions ?
Il y aura également un changement de format, donc qui sera sans doute pas le format extrême qui a été présenté par l'UEFA et par l'ECA, l'Association des clubs européens.
Mais qui
sera quelque chose d'intermédiaire, mais en tout cas encore plus un championnat fermé que ce qui existe aujourd'hui en Ligue des Champions.
Alors qu'on s'était bien amusé cette année, c'est un peu dommage, mais c'est que pour 2024, donc on a encore le temps. Direction l'Italie.
Et Correa qui va partir au contre.
Deux uomini su di lui. Correa dribbling. Entra in area di rigore. Aspetta l'uscita di Gollini. Lo dribble. Correa. Salvataggio rete.
Correa qui scelle la victoire de la Lazio dans son stadio olimpico. La Lazio se dirige vers une victoire finale en Coupe d'Italie.
C'est tout, les gars. La victoire finale 2019. La Lazio.
Un trophée pour la Lazio de Rome. Vous entendez les trompettes romaines dans le Stadio Olimpico. Et oui, dans leur stade, les Romains ont donc remporté cette Coupe d'Italie, la 7e d'ailleurs de leur histoire. On dit que c'est un peu la spécialité du club, ces finales de Coupe. C'est à noter, et on y reviendra, puisque cette Coupe était depuis 4 saisons le monopole de la Juventus de Turin. Il n'y a pas que le Paris Saint-Germain qui ne continue pas les belles aventures, Dominique.
Visiblement, c'est contagieux.
Non, mais c'est surtout à relativiser. Parce qu'aujourd'hui, on présente la saison de la Juventus de Turin comme cataclysmique, comme le PSG. Moi, je suis un petit peu plus rationnel sur le fait que.
Ah, bah, ils sont encore champions, de toute façon.
Ouais, c'est difficile ça montre que c'est difficile de gagner tous les trophées, même si vous vous appelez la Juve ou le PSG. Alors, il y a eu des crashs pour le PSG, mais encore une fois, c'est pas si simple que de gagner toutes les coupes tous les ans, de mobiliser des joueurs pour tous les trophées nationaux.
En tout cas, donc pas la Juve, mais la Lazio. Alors, ce qui est amusant, c'est que la Juve avait été éliminée par Bergame. Bergame, l'Atalanta, qui en plus, on y viendra, était bien malheureuse hier soir. En tout cas, ce titre, il est plutôt bienvenu pour la Lazio, qui est huitième actuellement du championnat. Ce sont ses deux buteurs, on l'entendait tout à l'heure, Milinkovic-Savic à la 82e minute. Donc le but est venu très tard, et ensuite Correa, l'Argentin, qui ont marqué. Écoutons l'entraîneur très critiqué cette saison, Simone Inzaghi, saluer ce trophée.
Ma è stata una bellissima serata davanti a un pubblico meraviglioso.
On a vécu une superbe soirée devant notre public en plus. On a fait un bon parcours, tout comme l'Atalanta qui s'est bien battue comme en championnat. Cette fois, c'est nous qui avons réussi à remporter le match. Et oui, ça nous qualifie pour la Ligue Europa. Nous voulions cette coupe. Maintenant, on va savourer cette victoire.
Habib, alors c'était difficile. En tout cas, voilà une porte vers l'Europe. Ça aide à bien finir une saison.
Bah, ça aide parce que lorsque vous êtes huitième comme la Lazio, je crois que c'est ça,
en ce moment,
Serie A, derrière la Roma, l'éternel rival, c'est assez souvent, mais c'est vrai que c'était une saison où à un moment donné, la Lazio, je me rappelle, avait l'opportunité d'aller en Ligue des Champions, ils étaient à quelques points du top 4 et ensuite ils ont un petit peu sombré, donc c'est sûr qu'un trophée vient un petit peu embellir une saison qui au départ paraît ratée, mais ça prouve encore une fois que les émotions c'est bien, mais lorsque vous gagnez un trophée, bah, les gens se raccrochent à ça et que à la fin de la saison, vous avez un titre supplémentaire. Et le football est aussi fait pour ça. C'est vrai qu'on vit des émotions. Mais à la fin, si vous n'avez pas ce trophée, moi je le dis assez souvent, j'ai raté beaucoup, beaucoup de finales et j'échangerais beaucoup de mes émotions contre des trophées qui seraient chez moi sur mon placard où je pourrais dire bah, j'ai quand même gagné cette coupe-là parce que c'est aussi pour ça qu'on joue au foot.
C'était difficile, mais en tout cas, peut-être ce qui les a aidés dans ce match, Étienne Moati, ce sont les supporters parce qu'ils ils jouaient à domicile. Alors évidemment, c'était pas fait exprès, mais en tout cas, c'était une jolie récompense pour eux.
Oui, c'est vrai qu'ils avaient leurs supporters, mais parfois les supporters de la Lazio, c'est pas ce qu'il y a de mieux dans ce club-là.
Oui, on va y venir.
et, Et c'est aujourd'hui une qualification donc pour une Coupe d'Europe. J'espère pour la Lazio, pour ses supporters, qu'ils ont conscience que les débordements racistes qu'il y a assez fréquemment dans les tribunes quand la Lazio joue, quand vous êtes en Coupe d'Europe, que ce soit la Ligue des Champions, que ce soit la Ligue Europa, de tels incidents, ça vous expose donc très sévèrement. Et donc j'espère que cette qualification va pousser le club à faire un petit peu de ménage dans les rangs de ses supporters, parce qu'il risquerait très gros.
Leur réputation malheureusement est ancienne. En tout cas, Dominique, les favoris, justement, c'était l'Atalanta de Bergame, qui, lui, pour l'instant, est quatrième, pour l'instant, est qualifié en Ligue des Champions. On a l'impression qu'ils ont été piégés hier, les joueurs de l'Atalanta, par rapport au style qu'ils développaient, et plutôt séduisant. Ils ont été bloqués par cette Lazio pendant le match.
Oui, la marche était sans doute trop haute pour eux. Ils ont pas...
C'était plutôt l'inexpérience.
Bah, je sais pas, ça peut jouer, mais j'y crois pas. Après une campagne de Ligue des Champions, on a vu des renversements à tout crin, à tout bout de champ. L'expérience, quand on voit l'Ajax, ça remet en cause quelques certitudes ou convictions qu'on a dans le football. Mais même si on va en reparler, moi j'ai eu beaucoup de mal à parler de la Lazio, parce qu'il y a peu de choses que j'aime pas sur Terre, mais alors là, la Lazio, c'est vraiment un club que je déteste.
Ça fait très longtemps qu'il traîne une terrible réputation.
Bah, c'est pas une réputation en fait, c'est vraiment un club où il y a un noyau de gens nostalgiques du Duce, de Mussolini, avec des gens qui continuent d'avoir des pratiques fascisantes et avec des complicités au sein du club qui laissent faire. Alors si vous voulez, quand on parle de la Lazio, avant de parler de sportifs, de tout ce qu'ils font, moi je suis bloqué par le fait que je vois d'abord une organisation d'extrême droite qui sert du football pour véhiculer ses idées pourries. Alors moi ça me dérange.
Ouais, moi c'est le seul club dans ma carrière de footballeur où j'ai vécu ce moment en fait où on avait joué avec l'Olympique de Marseille en Coupe d'Europe à l'époque de Jean Fernandez, et on était avec Abdoulaye Maïté, forcément tous les deux défenseurs, et on avait subi, il y avait Manfredini d'ailleurs qui était un joueur de la Lazio, donc aussi comme nous, de couleur black si on veut, et on avait vécu ça, donc c'était la première fois dans un stade que je vivais ça, et c'est la première fois que je l'ai vécu en 14 ans de carrière. Donc c'est vrai que la Lazio c'est un club où on a du mal à voir quelque chose de positif, mais pourtant j'ai discuté avec Ousmane Dabo qui a joué très longtemps là-bas et qui adore ce club et qui est en amour avec ce club, donc je pense qu'il y a aussi il y a trouvé aussi son succès et son plaisir, mais je trouve que hier peut-être que Bergame, le fait d'être quatrième de Serie A, d'être engagé éventuellement pour une qualification en Ligue des Champions, vous avez l'impression que vous hiérarchisez en quelque sorte les choses psychologiquement, je dis pas dans l'approche du match, mais c'est jamais facile d'être engagé sur deux compétitions quand vous savez qu'il y en a une qui est primordiale et qui est essentielle pour le club et qui est surtout le prestige ultime, de se dire imaginez, on gagne la coupe, mais on laisse des forces, et derrière, on n'est pas qualifié en Ligue des Champions. Et c'est possible pour Bergame. Donc, je peux comprendre aussi que la Lazio ait une vraie motivation, une motivation un petit peu plus importante que Bergame hier.
Est-ce que cette défaite en coupe peut justement un peu aussi leur saper le moral pour les deux dernières journées qui restent?
Tout dépend comment ils l'ont approché.
En plus, ils vont jouer à la Juventus.
Moi, je me rappelle avoir vécu une saison avec l'OM où on avait complètement pas mis de côté le championnat, mais on n'était pas du tout les mêmes hommes en championnat parce qu'on savait qu'on était engagé sur le trophée de la coupe de l'UEFA. On allait en finale, donc on était moins investi. On sentait que dans la semaine qui précédait un match de championnat, bah, c'était un petit peu plus tranquille. Et puis dès qu'il y avait la Coupe d'Europe qui arrivait, on était des avions de chasse. Donc peut-être que pour l'Atalanta Bergame, ça a été un petit peu la même chose. Dans leur préparation, ils se sont dit bon, ok, c'est la Coupe, mais nous, on a la Ligue des Champions et une priorité. Parce que quand vous êtes joueur de foot, et là je reviens à l'histoire des titres, mais c'est l'inverse, c'est qu'on vous propose de gagner la Coupe d'Italie. Et par contre, de faire une saison entière en Ligue des Champions, bah, il y a des joueurs qui se disent, ouais, ok, un trophée, si j'en ai déjà gagné plusieurs, j'ai vraiment envie de jouer à la Ligue des Champions parce que ça dure toute une saison. Alors pour moi, c'est un paradoxe parce que je viens de vous dire que les titres sont importants, mais dans la tête des joueurs, ce sont des choses qui peuvent jouer.
Étienne, quand on évoquait les problèmes de racisme et la réputation et mauvaise réputation de cette équipe de la Lazio, il y a eu une décision en plus surprenante hier de la commission de discipline. Justement, on se souvient des insultes. À la Lazio, c'était Bakayoko qui avait été au centre des cris racistes, le joueur de Milan. Et le 2 avril dernier, c'était contre Moïse Kean, Alex Sandro et Blaise Matuidi dans l'équipe de Cagliari. Et hier, la commission de discipline a décidé de ne pas sanctionner le club. Est-ce que justement, on sait qu'il y a un gros problème en Italie, que ça risque pas de continuer?
Ça vous surprend? Moi pas.
Je vous demande si ça vous surprend.
Je vois le football italien gangréné donc par des problèmes racistes.
Et
dans
même les
tribunes.
Dirigeants donc.
Le pouvoir, même.
Puisque absolument. La commission de discipline, théoriquement.
Oui, et donc depuis moi que je pratique ce métier de journaliste, et même plus jeune quand je suivais le football sans y travailler, je lisais déjà, je voyais déjà des problèmes de racisme dans les stades en Italie. Aujourd'hui, on est en 2019. Il y a eu des incidents toute la saison ou pas loin.
Il y a
loin,
des sanctions soi-disant possibles.
Et il y a des sanctions qui sont possibles dans tous les règlements, qu'ils soient européens ou qu'ils soient nationaux. Et quand vous voyez qu'une commission de discipline peut ne prendre aucune sanction dans ce cas-là, franchement, les bras m'en tombent. Mais en tout cas, c'est surtout la colère qui monte.
Vous savez, la phrase qu'ils ont, l'explication, c'est les chants. Alors, c'était des chants donc contre les joueurs. Même si ils sont à censurer, ont eu objectivement pendant le match une durée limitée en rapport au résultat.
Là, on est dans la faute morale. On est dans l'ambiance italienne du pouvoir en place depuis quelque temps. Il y a un hebdomadaire qui met en une Salvini pour dire que c'est l'homme le plus puissant d'Europe actuellement, un hebdomadaire français. Donc, on est dans cette ambiance-là. Et là, c'est une faute morale parce que déresponsabiliser le club, c'est ce qu'il y a de pire. Les clubs sont responsables des actes racistes commis dans leur enceinte par leurs supporters. Si vous ne faites pas ça, c'est de dire que vous encouragez, ils vont continuer, et donc il n'y a pas de responsable. En fait, c'est une invitation à être raciste.
C'était un hasard.
Chaque dimanche, pas trop longtemps, une minute, deux minutes. Hein. Faites court, s'il vous plaît, soyez raciste, mais faites court. Donc voilà, c'est insupportable.
Mais ce que vous venez de dire, Annie, lorsque vous regardez le superbe reportage d'Olivier Dacourt, justement, sur ce
« Je ne suis pas un singe »,
rappelez-vous, Infantino, et là je ne vais pas stigmatiser ce qu'il est, parce que je ne pense pas qu'il soit fondamentalement raciste, mais rappelez-vous, dans le documentaire, il dit « Tu sais, Olivier, quand il y a 5 supporters qui font des cris de singe, on ne peut pas concrètement sanctionner tout un stade. Il est impossible d'avoir 5 supporters et d'entendre concrètement ces cris de singe. Si vous avez 5 personnes qui, dans un stade de 60 000, font des cris de singe, vous n'allez pas les entendre. Donc si forcément vous les entendez,
autres, les
voilà. Si vous les entendez, c'est qu'à un moment donné, il y a énormément de monde qui le fait, ou au moins on va dire peut-être quelques milliers. Donc ça prouve que même Infantino n'est pas conscient de ce qui se passe dans les stades italiens. Et en plus, là, je reviens sur l'aspect du pouvoir. Le pouvoir en Italie va dans le sens de ce qui se passe dans les stades.
Exactement.
Donc à partir de là, si le pouvoir ne prend aucune décision, et là on parle du pouvoir ultime, moi je pense qu'aujourd'hui, les instances ne feront rien. La seule chose, c'est les dirigeants et les joueurs qui un jour feront une action majeure et qui changera peut-être les choses.
Comme
c'est
l'avait difficile dit Samuel Eto'o, notamment dans ce documentaire.
Je pense qu'il ne faut pas attendre d'être aidé par les pouvoirs, il ne faut pas attendre d'être aidé par les instances, ceux qui doivent juger justement les clubs, parce qu'il ne faut pas oublier que les instances sont nourries par ces clubs.
On se souvient de la colère de Carlo Ancelotti, hein, qui avait dit la prochaine fois, je sors avec mes joueurs.
Le problème de Salib, c'est que même les coéquipiers de Blaise Matuidi et de Moïse Kean à la Juve n'ont pas forcément été tous d'une grande classe.
Bonucci, voilà. Qui avait dit 50-50.
Ça résume tout.
Et est-ce que la sanction prise en France contre...
Dijon,
voilà.
Un point avec sursis.
Un point avec sursis parce que, on s'en souvient, c'était le capitaine d'Amiens, hein, Prince Guano, qui avait été sifflé, qui lui d'ailleurs avait dit je ne porte pas plainte et tout. Est-ce que vous pensez que ça c'est déjà peut-être un début de réponse?
La France c'est plutôt.
On se souvient que la ministre des Sports s'est mobilisée, c'est-à-dire le pouvoir politique.
En France on est plutôt pas trop mauvais sur ces sujets-là, mais il y a un communiqué de Dijon en début de semaine qui explique qu'il fera pas appel et qui se dit doublement victime. Donc si c'était pour faire ça, c'était pas la peine de communiquer, parce qu'en fait, ils étaient victimes de cet incident. Ils ont qualifié ça d'incident. Donc, vous voyez, culturellement, les choses pour changer. Il y a aussi l'homophobie en ce moment dont on parle beaucoup. Tout ça, ça va être très très long, parce que les mentalités partout en Europe et mais après, en France, il y a eu des cris de singe contre Joseph Antoine Bell, contre des joueurs noirs du Paris Saint-Germain, Georges Weah. Il y en a eu dans les années 90. Et grâce à la mixité, grâce à un public différent dans les stades, on a pu résoudre ces problèmes. Voilà, parce que la France a évolué, la France est plus multiculturelle, et aujourd'hui je pense que si des imbéciles se mettaient à faire des cris de singe dans un stade, ça ne serait plus possible, parce que vous auriez...
En France franchement les instances elles ont pris conscience de ça, on peut les critiquer pour beaucoup de choses, aujourd'hui elles ont pris conscience de ça, et on ne peut pas mettre exactement sur le même plan Dijon et la Lazio de Rome, je veux dire, c'est un spectateur...
Non, je pensais la réaction des instances plutôt.
Oui, la réaction des instances elle est, je pense, sur ce dossier-là, proportionnée par
rapport à... Le comité de Dijon est maladroit, Étienne.
Par contre, je trouve que dans ce qui s'est passé justement avec ce supporter de Dijon, il y a eu une très très bonne gestion de la part du joueur qui a été ciblé, parce que je trouve que pour moi, il y a une action forte de sa part. Il a été suivi par tous ses coéquipiers. Et surtout, j'ai trouvé que l'arbitre de la rencontre, c'était, je me rappelle plus comment il s'appelle, mais qui a très très bien géré cet incident, parce qu'il a dans un premier temps arrêté le match, et ensuite il est allé voir le joueur pour lui demander s'il était apte à reprendre la rencontre. Et que si lui, lui disait que psychologiquement, il n'était pas apte à reprendre la rencontre n'aurait pas repris. Donc je trouve que les deux entraîneurs, Antoine Camboré et justement l'entraîneur d'Amiens, Pélissier, ont très très bien géré cette situation, l'arbitre aussi, et les instances, en quelque sorte, ils ont mis, alors pas quelque chose de symbolique, ils ont mis une sanction qui montre qu'ils sont au fait du cas, et puis ils se disent, et attentifs. Et c'est pas oublié, comme l'a dit Étienne, c'est un mec. C'est pas deux, c'est pas trois, c'est un mec. Et ce mec-là a été identifié et il sera jugé. Donc ça, c'est bien.
Ouais. Eh ben, on continuera à suivre le dossier, notamment du côté de l'Italie, et on suivra eh bien ces deux dernières journées hein, de Serie A, puisque l'Atalanta a en jeu cette place en Ligue des Champions, un peu comme tout à l'heure quand on parlait de Saint-Étienne.
Daniel Vess. Vess qui prend son temps, qui trouve Neymar, et celui-là sera validé. Le but de Neymar sur un service parfait de son grand ami Daniel Vess.
Mais là on voit le très bon ballon de Daniel Vess sur la tête de Neymar et le geste de Neymar est parfait aussi.
Le but de Neymar ce week-end avec nos confrères de Canal+, mais un petit tour et puis s'en va Neymar, buteur à Angers, donc pour la 15e fois de la saison en 17 matchs. 7e passe décisive aussi ensuite pour Di Maria. Un très joli geste aussi, un sombrero, c'est ça, hein, Dominique.
Moi je pense que le ballon n'était pas sorti alors que... L'arbitre a sifflé sortie de but, mais je pense que le ballon n'est pas sorti.
Alors le problème, c'est que c'était le dernier match de la saison. Ah oui. Elle est déjà finie pour Neymar, puisqu'il a été sanctionné. Alors sanctionné, sans doute, on avait envie de dire sévèrement, parce que c'était un geste d'humeur et pas un coup de poing, comme on a dit au début, contre un supporter. Mais en tout cas, il connaît la règle quand même, Neymar. Il est encore à l'entraînement, il est toujours là.
Oui, il sera là demain, samedi pour la remise d'Hexagol. Le Paris Saint-Germain va recevoir son seul titre de la saison, des mains de Nathalie Bois de la Tour, la présidente de la Ligue.
Contre Dijon.
Donc il sera là. Il y a la Fondation qui fait un repas la semaine prochaine, donc il sera encore là. Et peut-être qu'après, à Reims, c'est pas sûr qu'il y soit pour le dernier match. Et il sera peut-être déjà au Brésil pour une Copa América. Mais alors, Neymar, son bilan, quand il est sur le terrain, tout va bien. Avant et après sa blessure, ça a été cette saison un joueur formidable, avec une relation fusionnelle avec Thomas Tuchel, ce qui n'était pas le cas avec Unai Emery. En revanche...
C'était un peu forcé, le fusionnel.
Ah non, franchement, les deux s'entendent vraiment très 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 bien. En revanche, ces trois matchs de suspension-là s'ajoutent à trois matchs de suspension en Ligue des Champions. Pour avoir insulté un arbitre, l'arbitre de Monsieur Skomina, qui va arbitrer la finale des Ligue des
Lors
Champions.
Lors de la défaite contre le Slovène.
Voilà. Donc il l'a insulté sur les réseaux sociaux. Vous dites, alors ok, il a été provoqué par un idiot encore, il y en a beaucoup dans les stades. Si Serge Aurier fait ça, si Hatem Ben Arfa fait ça, si Karim Benzema fait ça, est-ce qu'on a le même regard sur le geste d'humeur de Neymar? Est-ce qu'il n'y a pas un peu d'excuses parce que c'est Neymar et qu'encore une fois il est provoqué par un imbécile au bout de deux heures d'un match qu'il a perdu, il est énervé, il a perdu la finale de la Coupe de France. Il n'a pas à faire ça. Verratti se fait traiter de raciste, ce qu'il n'est pas évidemment. Verratti fait genre j'ai pas entendu. Donc Neymar, sur le terrain c'est fantastique, en dehors il y a quand même beaucoup de problèmes.
Habib, il aurait pas dû réagir.
Je sais pas. Je suis incapable de vous dire si c'est bien, si c'est pas bien, parce que comme le dit Dominique, Non. Alors oui, c'est vrai. T'as raison. Ça n'est pas bien. Mais je suis incapable de vous dire en fait si, en quelque sorte, le garçon que je suis n'aurait pas eu une réaction similaire ou plus importante ou moins importante. Je ne sais pas. C'est vrai qu'il y a ces deux heures de match. Il y a
cette obligation de monter.
On se demande pourquoi ce mec est là en fait. Surtout.
Et puis
c'est un supporter, et puis peut-être qu'il entend tout ce qui se dit avant, que ce supporter lui dise à lui ce qu'il a à lui dire, donc peut-être qu'il entend l'insulte sur Verratti, celle qu'il dit à Marquinhos, et puis à un moment donné, il dégoupille, donc bien sûr qu'il doit être sanctionné pour ce qu'il a fait, parce que quand on est footballeur, on a un devoir d'exigence et un devoir de respectabilité par rapport à ce qui se passe. On est des exemples, donc ça je comprends. Après, je souhaite fortement le voir en Ligue 1 l'année prochaine, parce que pour moi, il y a un goût d'inachevé avec Neymar, c'est-à-dire qu'on l'a pas vu au bon moment, on l'a pas vu quand il fallait, quand ça comptait pour le Paris Saint-Germain. Et comme l'a dit Dominique, on peut dire ce qu'on veut. Il est parfois agaçant, il est parfois un petit peu trop bling-bling pour ce PSG, pour cette Ligue 1. Mais on se dit qu'avec lui, le PSG est bien, bien, bien plus fort.
Il va rester la saison prochaine.
Mais il faudrait savoir où il peut aller.
Je pense qu'il y a
évidemment, vous savez que, voilà,
évidemment partout,
le journal
si on met ça en regard avec son talent.
L'envoi avec des élucubrations assez surprenantes, l'envoi du côté du Real, où il servirait de monnaie d'échange pour Kroos, Bale, Isco, et peut-être même
c'est finalement,
d'autres joueurs.
C'est finalement, si on regarde bien, le seul club où on peut imaginer finalement Neymar la saison prochaine, parce que bon, c'est pas au Barça qu'il va retourner, on le voit assez peu partir en Angleterre, l'Italie c'est pas la Juve où il y a déjà Cristiano Ronaldo, et l'Allemagne, je ne suis pas persuadé qu'il meure d'envie d'aller jouer au Bayern Munich. Mais bon, finalement, c'est une seule option, peut-être, et rien ne prouve aujourd'hui que le Real soit vraiment
à bloc
sur Neymar. Ils ont déjà pris Eden Hazard, ils vont conserver évidemment Karim Benzema, ils vont sûrement prendre un autre attaquant, un autre avant-centre pour jouer avec ou Karim Benzema, ou à la place de Karim Benzema pour le faire souffler. Est-ce que Neymar est leur priorité? Franchement, j'ai pas d'infos. Mais
moi, je crois pas à cette possibilité. La monnaie d'échange. Que Neymar aille au Real, c'est possible si le Real d'un seul coup décide d'envoyer, je sais pas, moi, 300 millions et dire on le veut. Et puis Neymar d'un seul coup dit à Paris Saint-Germain, c'est terminé, je veux partir. Il est très difficile de retenir un joueur qui veut s'en aller, même s'il a pas de clause libératoire. Quand il vous dit je veux m'en aller, c'est un mec qui peut vous plomber un vestiaire, qui vous peut vous plomber une saison. Donc le Paris Saint-Germain.
Lui qui veut gagner un Ballon d'Or, Habib.
Oui,
c'est,
mais
c'est plus du côté
c'est
du
Real. C'est pas parce qu'il ira au Real qu'il va gagner le Ballon d'Or. Dans l'attitude, et là je rejoins Dominique, ceux qui gagnent le Ballon d'Or ces derniers temps, bon déjà il y a eu Messi et puis Ronaldo, donc il n'y a pas eu d'autres à part Modric ces dernièrement, mais. Je crois que le comportement de Neymar aujourd'hui fait qu'il ne gagnera pas le Ballon d'Or. Il y a un désaveu qui a été émis par les gens qui ont voté. Il a fini 12e ou 14e, je crois, de ce Ballon d'Or-là. Ouais, donc je trouve que c'est très très loin en vue de son talent. Moi, je crois pas qu'il puisse y avoir de monnaie d'échange. Parce que si je suis Toni Kroos et que je joue au Real Madrid et qu'on me dit, tu vas être dans la monnaie d'échange pour Neymar avec Isco et machin, je dis, oh les gars, on parle pas du pimpin de, non, je suis Toni Kroos. Je suis pas n'importe quel joueur. Donc, pour l'ego de ces joueurs-là, accepter d'être dans la monnaie d'échange, je suis pas certain. Qu'ils viennent au Paris Saint-Germain parce qu'il y a un gros contrat et puis parce que Toni Kroos n'est plus très jeune et qu'ils se disent bon c'est le coup pour moi de
c'est
faire
4-5 ans. Retraite le Paris Saint-Germain quoi. Donc.
Ben non c'est pas ça mais Etienne t'as bien compris qu'aujourd'hui les joueurs qui vont au PSG sont conscients du fait qu'ils vont obtenir un salaire égal à celui qu'ils ont dans leur claire voie supérieure avec des grands clubs qui gagnent la Ligue des Champions alors que le PSG pour l'instant n'a pas gagné ces trophées là quoi donc ils y vont aussi pour cet aspect financier
mais c'est je pense que Neymar et Mbappé vont rester cet été au Paris Saint-Germain et donc la saison prochaine et je pense que la stratégie peut-être des journaux madrilènes et du Real Madrid qui a déjà permis indirectement au PSG de monter au cocotier avec Mbappé en faisant une offre à 180 pour que finalement le PSG s'aligne et l'achète 180 millions d'euros à Monaco bah c'est qu'à la fin ils augmentent Neymar et Mbappé, ce qui est déjà pour eux une charge d'à peu près 100-110 millions d'euros par an en amortissement de transfert des deux, donc bah, c'est, même si c'était pas un transfert, c'était un rachat de clause, mais 222 mm-hmm. plus 180, et les salaires qu'ils leur donnent, à peu près 30 pour Neymar, 30-35, à peu près 18 pour l'instant pour Kylian Mbappé, donc le Paris Saint-Germain va être obligé soit de les prolonger, soit de les augmenter, soit les deux. En général, ça va ensemble. Et donc, ils vont repasser à la caisse. Ça va coûter encore plus cher d'avoir Neymar et Mbappé dans son équipe. Alors, ils partiront moins vite. Mais le Real Madrid va obliger le Paris Saint-Germain à se mettre dans le rouge et donc à être hors des clous du fair play financier. Donc, c'est pour le PSG, ça va être, ils vont rester, mais ça va être compliqué.
Ah oui, donc vous pensez à une démarche très très vicieuse de la part de Haas.
Bah, Bernard l'a dit, c'est une oligarchie qui se protège.
Moi, je pense que ces joueurs-là décident en fait. C'est-à-dire que quand vous avez ce statut-là et ce talent-là, vous décidez. C'est-à-dire que vous soyez au PSG ou au Real Madrid, si demain Neymar dit « je m'en vais et je ne jouerai plus pour ce club », au bout d'un moment, le PSG sera obligé de trouver une solution. Parce que c'est pas un petit bruit pendant 24 heures qui va se passer si au cas où ce joueur dit « je veux m'en aller ». C'est quelque chose qui va vous plomber toute une saison. Donc le PSG a plutôt intérêt à bien gérer cette situation, parce que sinon, c'est problématique.
Eh bien, on verra ça les prochaines semaines. Il y aura des choses à raconter encore. Le 16 mai, ça vous dit quelque chose comme date, Habib ? 16 mai, il y a un an.
16 mai, il y a un an, non, pas du tout, dites-moi.
L'OM disputait une certaine finale.
Ah non, Annie, dites pas ça. J'allais rentrer chez moi heureux, là.
Il y a une chose dont on est sûr, c'est que la saison prochaine, ils n'en disputeront pas de finale.
Merci beaucoup, messieurs, merci à Pierre Guérin et Laurent Salerno.
C'était Radio Foot International avec la compagnie aérienne Corsair. Corsair vous propose jusqu'à 4 vols par semaine vers